tous, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Et comme jusqu'au mois de décembre, je vais être avec aujourd'hui 4 fois au milieu de vous. Donc, j'ai pensé partager avec vous, à chacune de mes visites, un chapitre de l'Épître aux Hébreux. Donc, nous pourrons voir ensemble, non pas d'une manière absolument approfondie, parce qu'il y a une telle richesse, mais d'une manière générale, l'aspect de ces 4 chapitres, avec pour titre général, « Soyez confiants, Jésus-Christ est supérieur à tout ». Comme vous le savez, l'Épître aux Hébreux a été écrite pour soutenir des chrétiens d'origine juive qui se posaient énormément de questions et d'une part étaient d'autre part en but à des persécutions. Lorsque l'Épître aux Hébreux a été écrite, le temple de Jérusalem n'était pas encore détruit. Il y avait donc tout le rite lévitique, le rite donc de la religion juive, qui se déroulait encore. Et donc les chrétiens juifs qui depuis sont rentrés par la grâce dans l'alliance d'Israël, les chrétiens à un moment donné se sont posés des questions sur la force de leur foi, sur la pertinence de leur foi en Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont le nom nous est inconnu, va écrire à ces chrétiens pour les encourager et en même temps, nous l'aborderons pas vraiment dans les 4 premiers chapitres, mais pour avertir ces chrétiens juifs des dangers de reculer par rapport à la foi en Jésus-Christ. Alors, dans ces versets du chapitre 1, versets 1 à 14, on se rend compte que l'œuvre de l'Épître aux Hébreux exalte la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une épître qui va amener les auditeurs à porter les regards sur Jésus-Christ, mais pas simplement pour regarder d'une façon superficielle, rapide, mais approfondir. Vous savez que quand on porte un regard sur quelqu'un, où on le regarde à peine, où on le fixe avec discrétion, mais en même temps, on lit des choses, on cherche quelque chose, on distingue dans un visage, dans un être, on distingue son âme, on distingue son esprit, on distingue énormément de choses. Et c'est dans ce sens-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à regarder. Au chapitre 11, il est dit... 12, pardon, considérez, portez les regards sur Jésus, considérez le souverain sacrificateur qui est le vôtre. Donc, cet auteur va magnifier en quelque sorte la personne de Jésus-Christ pour que les chrétiens qui se posent des questions puissent véritablement trouver une assurance dans leur foi. Alors, dans notre chapitre 1, on va voir que Jésus-Christ est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament, et puis également aux anges. Alors, les prophètes, évidemment, ont joué un rôle éminent dans l'histoire d'Israël, comme vous le savez. C'est pratiquement l'ensemble de qui contient les prophètes, hein, qui sont adressés à Israël. D'où l'importance dans le peuple juif, dans sa culture, en tant que nation, l'importance des prophètes. Et puis, en même temps, c'est par des anges que la loi a été promulguée, par l'intermédiaire, la médiation de Moïse. Et donc, les anges ont énormément d'importance dans la religion juive et dans la conception de la foi juive. Et c'est pour ça que cet auteur va parler de Jésus-Christ par rapport aux prophètes, par rapport aux anges. Alors, Jésus-Christ, en sa personne, est supérieur à tous les prophètes de l'Ancien Testament, donc on va dire, pour faire court, à tous les prophètes d'Israël, de l'Ancienne Alliance. Donc, premièrement, il est le Fils même de Dieu, et non un homme simplement appelé par Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont tous été des êtres humains appelés par Dieu. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à ses correspondants, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Ensuite, il montre clairement que Jésus-Christ est Dieu, puisqu'au verset 3 du chapitre 1, il dit « étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne ». Alors, je sais pas, aujourd'hui, on a des cartes d'identité avec une photo, mais on n'a plus nos empreintes. Hein. Quand j'étais enfant, ma première carte d'identité, j'ai mis le doigt dans une encre noire, et puis voilà, j'ai mis mon empreinte sur ma carte d'identité. Ce qui fait que la carte d'identité représentait la personne par la photo, et véritablement identifiait également cette personne par l'empreinte. Et donc Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu, et l'empreinte de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. C'est donc la manifestation éclatante de la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que cette description qui est donnée, le Christ étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ne pourrait jamais être. Donc c'est pour cela que ces textes nous démontrent, en quelque sorte, cette divinité de Jésus-Christ. On pourrait prendre un autre exemple entre, par exemple, le soleil, et puisqu'il y a du soleil aujourd'hui, et les rayons du soleil. Vous ne pouvez pas dissocier les rayons du soleil, de la source même. C'est la même chose quand on regarde Jésus-Christ, on ne peut pas le dissocier du Père. Il est ce que les rayons sont au soleil, il est la manifestation de Dieu, le Père, pour nous, donc sur cette terre, pendant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc impossible de séparer la gloire du Christ de la nature de Dieu. Littéralement, Jésus-Christ est la représentation exacte de la substance même de Dieu. C'est pour cela que Paul, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 9, va pouvoir écrire à ses correspondants, « Car Christ en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, dans un corps semblable au nôtre, c'est Dieu qui s'est manifesté, toute la plénitude. Donc on a du mal à imaginer ce que ça peut représenter, parce que la plénitude de Dieu dans l'Ancien Testament, elle apparaît souvent sous des actions grandioses, voire des actions qui font que le peuple craint et dit « Moïse, monte, nous, on a trop peur de ce Dieu ». Donc on s'attend toujours à une manifestation écrasante d'une puissance. Et Christ est, évidemment, à ce titre, le Tout-Puissant, mais il a accepté de renfermer cette plénitude de Dieu dans un corps semblable au nôtre. Et c'est tout le mystère, enfin, dans le sens biblique du terme, de l'incarnation. Dieu fait homme. L'homme-Dieu, Dieu fait homme. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a pu dire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Si on essaye de se transporter plus de 2000 ans en arrière, imaginez que nous soyons en Judée-Samarie et que nous soyons en présence du Seigneur, physiquement parlant, en regardant le Seigneur. On serait en train de regarder Dieu, voir Dieu, sous une forme qui n'est évidemment pas une forme habituelle, puisque Dieu a choisi en Jésus-Christ de se manifester dans une humilité, enfermé dans un corps mortel, mais c'est Dieu. Et c'est pour ça que les hommes et les femmes, pour la plupart d'entre eux, étaient attirés par le Christ. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, va avoir cette... sous l'inspiration du Saint-Esprit, ces expressions, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. C'était la vie éternelle qui était auprès du Père. Vous voyez, l'apôtre Jean, qui est un être sensible, observateur, il devait contempler le Seigneur. Moi, j'imagine l'apôtre Jean regardant le Seigneur dormir, regardant le Seigneur manger, regardant le Seigneur expliquer des choses. Et voilà, il dit, voilà, on est en présence de la vie éternelle manifestée. Et il va terminer son épître au chapitre 5 en disant, c'est le Dieu véritable, Jésus-Christ, hein, en parlant de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le prologue du chapitre 1 de l'évangile de Jean, non plus l'épître là, mais le prologue, nous présente au verset 14, Jésus-Christ, comme étant la manifestation de la gloire de Dieu. Il nous a fait connaître la grâce et la gloire de Dieu. Moïse, la loi, le Christ, la grâce et la gloire de Dieu. Ensuite, Jésus-Christ, par son œuvre, est supérieur aux prophètes. Il est tout d'abord le créateur de l'univers, car par lui, Dieu a créé toute chose. Il a créé l'univers, comme il est dit, créé ce monde dans notre traduction. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le Créateur même de toutes choses descend dans un corps semblable au nôtre. Non seulement le Christ a créé toutes choses par sa parole, comme le dit ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 5, mais de plus, il soutient toutes choses par cette même parole. Au verset 3, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Le verbe soutenir, qui est utilisé là en grec, ne signifie pas que l'univers soit un poids posé sur le dos du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas du tout ce sens-là, c'est le sens de tenir, quand on tient quelque chose, et de porter d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, il est le créateur de ce monde, il est avant la création, et il sera après. Et il va emmener ce monde selon la volonté de son Père, c'est-à-dire le déroulement de l'histoire, ce que les prophéties nous enseignent dans les Saintes Écritures. C'est le Seigneur qui, en soutenant le monde, en même temps permet cet accomplissement de la parole de Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour, jusqu'à la transformation de toutes choses. Donc c'est dans ce sens-là qu'il soutient, il tient et il accomplit. Et puis en Colossiens, il nous est dit au chapitre 1, verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Voilà donc le sens de soutenir le monde, de porter le monde. Vous le savez, Jésus-Christ a eu dans son ministère une dimension prophétique. Il a aussi une dimension de sacrificateur suprême. Et donc en même temps de roi, hein, sont les trois dimensions du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on fait un parallèle entre le Christ, notre Seigneur, et les prophètes, eh bien on voit que Christ est le Fils de Dieu, ou Dieu le Fils. Par contre, les prophètes sont des hommes appelés par Dieu. Ensuite, le Christ est le seul et unique Fils de Dieu. Par contre, il y a eu de nombreux prophètes. Ensuite, le message de notre Seigneur Jésus-Christ, donc du Fils, est un message définitif et complet. Alors que pour les prophètes, c'est un message fragmentaire et incomplet. Voilà les différences quand on fait une comparaison entre notre Seigneur Jésus-Christ en tant que prophète et les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc Jésus-Christ est le dernier que le Père a envoyé pour nous parler de la vérité de Dieu. Donc vous voyez que ça vient en opposition, mais frontale et radicale avec la conception de l'islam. Alors c'est très intéressant, puisque eux ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ, ils peuvent donc considérer le Christ comme un prophète. Dans le Coran, le Christ est considéré comme étant au-dessus de tous les prophètes, hein, parce qu'ils reconnaissent qu'il est capable de créer, et ils reconnaissent qu'il a une origine tout à fait particulière, et que d'ailleurs il est monté au ciel, hein, que c'est son sosie qui a été crucifié. Mais quand on étudie ce Coran, on se rend bien compte que le Christ, par les sourates, par les déclarations du prophète de l'islam, est supérieur à tous les prophètes dont le Coran parle, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, s'ils considèrent que Jésus-Christ n'est qu'un homme, un prophète un peu supérieur mais sans plus, il n'est pas Dieu fait homme, alors évidemment ils vont dire, c'est notre prophète à nous qui est le dernier envoyé de Dieu. Et c'est toute la dialectique qu'on peut avoir qui existe entre le christianisme biblique et l'islam. Mais c'est très intéressant de voir comment la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ et comment dans les sourates, il n'arrive pas à mettre Jésus-Christ au même rang qu'un autre prophète. Il est au-dessus, mais il n'est pas encore Dieu, hélas, mais c'est à nous de leur témoigner et de leur partager cette vérité. Jésus-Christ également a eu un ministère de prêtre, et c'est là qu'il a révélé sa grandeur, parce qu'il a fait lui-même la purification des péchés. Vous savez, un prêtre dans l'Ancienne Alliance offrait un sacrifice pour le peuple, mais aussi pour ses propres péchés. Alors que là, le Christ a offert un sacrifice une fois pour toutes, pour les péchés de l'humanité, ce qui permet à chaque créature, quelle qu'elle soit, de recevoir le pardon de ses péchés, la purification de ses fautes, c'est-à-dire le pardon, la justification, et d'être sauvé. C'est le seul qui a fait cela. C'est pour ça que dans les évangiles, quand il guérit, il dit à un homme qui est alité, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche, tes péchés sont pardonnés », les Juifs réagissent tout de suite. « Mais qui est cet homme qui prétend pardonner les péchés ?» Et alors là, Jésus dit « C'est plus facile de dire « Je pardonne les péchés, mais regardez, je peux aussi guérir. » Et donc il va développer dans ses attitudes et son ministère, il va tenter par toutes sortes de façons intelligentes et aimantes et justes, il va tenter de convaincre les Juifs de sa divinité. Certains vont recevoir le Christ comme leur sauveur et vont se convertir à Christ, et d'autres, donc, dans le monde juif, vont le refuser. Ensuite, Jésus-Christ règne en tant que roi. Il est assis, au chapitre 1, verset 3, « Il est assis car son œuvre est accomplie ». Il est assis où ? Il a pris sa place à la droite du Tout-Puissant dans les lieux célestes. C'est la place d'honneur. Cela prouve qu'il est l'égal de Dieu le Père, car nul être simplement créé ne pourrait s'asseoir à la droite de Dieu. Alors, en même temps, ce qui est formidable pour chacun d'entre nous qui sommes sauvés et qui vivons cette vie de disciples dans la grâce de Dieu, il est dit que nous allons nous asseoir avec notre Sauveur. Il va partager sa gloire avec nous, et il va nous accueillir sur son trône. C'est quelque chose. Ensuite, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Comme je vous le disais dans l'introduction, les anges étaient très importants, ils sont toujours très importants dans la religion juive. D'abord parce que des milliers d'entre eux assistèrent au don de la loi sur le mont Sinaï. Ce fait est mentionné en Actes, chapitre 7, verset 53. C'est aussi mentionné dans le Deutéronome, dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Moi, j'en ai choisi que deux dans le Nouveau. Ce fait est mentionné en Actes 7, verset 53. « Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » C'est le témoignage d'Étienne, qui va donc mourir lapidé. Et puis Paul reprend en Galates chapitre 3 verset 19, « La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, donc Moïse. » Donc les anges ont un rôle fondamental et ont encore un rôle pour chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs la fin de notre passage, verset 14. Et aussi l'enseignement de Jésus qui dit « Ne troublez pas un de ces petits enfants parce que son ange qui veille sur lui... faites attention parce qu'il y a des forces spirituelles bonnes, divines, qui protègent les enfants. Alors sans aller dans des comportements non fondés sur les anges, il faut quand même reconnaître que dans les Saintes Écritures, ils ont un rôle. Ensuite, le Christ est donc, il est affirmé dans l'Épître aux Hébreux que le Christ est supérieur aux anges, c'est le verset 4 à 14. Et cette section, elle comprend 7 citations de l'Ancien Testament, toutes prouvant la supériorité du Christ par rapport aux anges. Il est le Fils, versets 4 et 5. Donc Jésus a reçu un nom incomparablement supérieur à n'importe quel ange. il a reçu le nom de fils. Alors que les anges sont parfois appelés collectivement fils de Dieu, comme dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6. Mais jamais un ange ne se voit appliquer le titre individuel. Vous avez ce qu'on appelle les Christophanies dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les apparitions de Christ dans l'Ancien Testament, avec Gédéon par exemple, l'apparition de Christ dans l'Ancien Testament, puisque comme vous le savez, Christ a préexisté de tout temps, et donc par moment dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a des apparitions de ce qu'on va appeler l'ange de l'Éternel, qui a tout à fait les attributs du Dieu Tout-Puissant, et qui correspondent aux attributs de Jésus-Christ. La première citation dans 7, « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père, dit Dieu, le père. » Paul le confirmera dans une prédication à Antioche de Pisidie, en acte 13, verset 33, il va reprendre donc ce verset. Il est le premier-né qui reçoit l'adoration. Le Christ est le premier-né, il a la primauté sur toute la création, en Colossiens chapitre 1, verset 15, car il créa toutes choses, il est le premier de tous ceux qui sont ressuscités, mais pourtant d'autres sont ressuscités, il en a même ressuscité lui-même avant de mourir sur la croix. Donc il est le premier-né dans le sens qu'il est le premier en tout, étant Dieu fait homme. C'est dans ce sens-là que cette expression doit être comprise. Il créa toutes choses, il est le premier-né de tous ceux qui sont ressuscités, Colossiens chapitre 1, verset 18. Et lorsqu'il vint dans le monde, les anges de Dieu l'adorèrent. Dieu ordonne aux anges de l'adorer, ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu, car nul parmi les anges de Dieu n'adorerait une simple créature. Ensuite, les anges le servent. Alors ça, c'est plus proche de nous, parce que au verset 14, il est question aussi des services de ceux qui croient. Les anges servent le Seigneur, en Hébreux chapitre 1, verset 7. Il s'agit ici d'une citation du psaume 104, verset 4. Les anges sont des esprits créés, ils n'ont pas de corps, bien qu'ils puissent revêtir une forme humaine lorsqu'ils exercent leur ministère sur la terre. De là l'expression de l'épître aux Hébreux, vous avez peut-être reçu des anges hein, dans l'exhortation à l'hospitalité. Hein. Certains d'entre vous ont reçu des anges. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec Lot, hein. Des anges, et l'ange de l'Éternel qui était là. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se trouvait sur la terre, les anges le servirent à plusieurs reprises. En Matthieu chapitre 4, verset 11, après cette tentation dans le désert, il est dit « Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Et puis d'une manière plus dramatique, en Luc chapitre 22, verset 43, dans le moment de l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin de Gethsémane, de se livrer lui-même et de mourir sur la croix, le texte nous dit au verset 43 du chapitre 22 de l'évangile de Luc, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » C'est très intéressant pour nous parce que nous sommes aussi sur la terre et des fois nous avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés. Et le Seigneur sait utiliser parfois, de la même manière qu'il a fait avec son propre fils, il sait nous entourer, on ne voit pas toujours les anges qui nous entourent. Mais c'est quelque chose, hein. On le sait. Alors, moi je me souviens, je crois que je vous l'ai dit il y a quelques années en arrière, mais je me souviens être en Suisse avec mon épouse, et on était chez les chrétiens, et on reprenait la route pour rentrer chez nous à Paris. Et donc avant de partir, le frère qui nous avait reçus avec son épouse, le frère prie. Et dans sa prière, il dit « Seigneur, entoure-les de tes anges, et garde-les jusqu'à leur maison. » Puis on se quitte. Et puis c'était un jour où il y avait un embouteillage monstrueux de plusieurs kilomètres sur les autoroutes. L'autoroute était fermée. C'était un truc de folie dans le Jura, là. Et alors nous, on allait rentrer sur l'autoroute et il y avait juste une Golf devant nous. J'en souviens toute ma vie. Hein. Et alors, on voit que la Golf fait une manœuvre pour repartir sur la route. Et en nous croisant, en croisant, donc nous on était comme ça, la Golf arrive comme ça, on baisse les vitres et c'était deux gars qui étaient là dans ce véhicule, et ils disent l'autoroute est bouchée, suivez. Alors nous on dit on va sur Paris, suivez-nous. Alors on les suit, on a fait le lac de Nantua dans le Jura, et alors je me souviens parce que les gars ils roulaient à tombeau ouvert, mais comme c'était incroyable la vitesse à laquelle ils roulaient, et nous on avait une voiture lambda quoi, puis on est plus très jeunes, on était là, et on voulait pas les perdre parce qu'ils connaissaient toutes les petites routes, ils nous amènent sur une nationale qui était complètement bouchée, mais comme nous on allait dans le sens où c'était libre, hein, donc les automobilistes nous laissent passer. Et ces gars, ils ont disparu. On les a jamais revus. Et on est arrivé chez nous, tranquille. Et quand on a regardé les actualités le soir à la télé, mais on s'est dit, mais on a échappé à l'enfer. Les gens sont restés bloqués pendant des heures. Un truc infernal, une situation infernale. Et là, on s'est souvenu de cette prière. Seigneur, entoure-les de tes anges. Et j'ai toujours pensé que ces deux gars-là qui étaient sympas, mais je me suis dit, ça doit être des anges. C'est pas possible qu'on arrive là, ils sont là, quoi. À la seconde près, on aurait pu arriver 5 secondes plus tard. Alors vous avez certainement des histoires de ce genre-là, hein, dans votre vie. Eh, faut que je me dépêche. Ensuite, il est le Dieu établi sur le trône et ayant reçu l'onction, comme, je l'ai dit, versets 8 et 9. C'est intéressant parce que les anges servent devant le trône. Ils ne s'assoient pas sur le trône, les anges. L'un des enseignements principaux du psaume 110 est que Jésus-Christ, loin de Dieu, c'est-à-dire le Messie, le Christ, c'est ça que ça veut dire, être loin. Messie en hébreu, Christ en grec, et maintenant sur son trône de gloire. Jésus lui-même s'est référé à ce psaume important et dans un dialogue avec des pharisiens. En Marc chapitre 12, versets 35 à 37, il est dit, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Et les Juifs disaient, le Messie sera fils de David, selon d'ailleurs certaines prophéties. Mais ils ne comprenaient pas le sens. Et Jésus leur dit, mais comment David peut-il appeler son Seigneur, son fils, pour leur faire comprendre qu'il est Dieu? Et eux, ils n'arrivaient pas à saisir. Comment donc, alors, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Et Jésus pose cette question aux scribes, ou au peuple, aux pharisiens. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et je me souviens, dans la ville de Lausanne, j'avais rencontré un rabbin, à la place de la Palue, c'est dans le vieux Lausanne. Et je faisais de l'évangélisation, là. Et donc, le rabbin, on discutait des choses de Dieu. Et à un moment donné, je lui ai cité, je lui ai fait lire dans le Nouveau Testament. Je lui ai dit, voilà ce que dit le Christ. Et il m'a dit, je vais chercher dans nos écrits. J'ai jamais revu ce rabbin de ma vie, hein, parce que moi, après, je suis rentré sur Paris. Mais je me dis, c'est extraordinaire de pouvoir utiliser une parole du Seigneur en évangélisation. Et je peux vous dire que quand ce rabbin a lu ce dialogue du Christ, cette question, il était là, il m'a dit, ah, je vais chercher. Nos sages ont dû trouver la réponse. Et puis Christ règne en souverain et les anges le servent. C'est les versets 13 et 14. Et là, c'est l'auteur de l'Épître cite à nouveau le psaume 110, verset 1. Le fait que Jésus se trouve maintenant à la droite du Père, c'est-à-dire c'est une place d'honneur, est mentionné donc à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, comme vous le savez. Et en plus, l'auteur rappelle, pour encourager ses correspondants, il leur dit, mais c'est pas simplement pour le Christ que les anges existent. Puisqu'il dit, les anges sont des esprits au service du Seigneur assis sur le trône, mais ils nous servent aussi, nous qui devons hériter du salut, par la foi en Jésus-Christ. Les anges nous servent aujourd'hui. Vous savez, on est gardé d'un tas de choses. On est protégé de choses que l'on va découvrir peut-être quand on sera dans la gloire. Dieu va nous faire voir. ces interventions extraordinaires, alors que nous, on pensait être un peu mis de côté, abandonné, où on n'arrivait pas à voir. Mais on va découvrir des choses extraordinaires, de la protection de Dieu. Vous connaissez le Sadhu Sundar Singh? Ça vous dit quelque chose? Ok, Sadhu Sundar Singh, c'était un sadhu, donc un maître dans l'hindouisme, et puis le Seigneur lui est apparu, et il s'est converti au Christ, et il a évangélisé une partie de l'Inde. Et un jour, il était tout seul en train de se promener pour aller d'une ville à une autre, et il a dû dormir la nuit, dehors. Et le lendemain, il a trouvé autour de lui une bande de brigands. Et il les a regardés, il leur a dit « Mais pourquoi vous m'avez pas détroussé, vous m'avez pas volé ?» Et les brigands lui ont dit « On ne pouvait pas t'approcher. Il y avait des êtres lumineux avec des épées. T'étais au milieu d'eux, au milieu du cercle, t'étais protégé. » Et alors il les a évangélisés, puis il a poursuivi sa route. Mais les autres, ils ont été là toute une partie de la nuit à se dire « Mais c'est qui ce type pour qu'il soit protégé comme ça ?» Voilà ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous, ses enfants. Alors que Dieu bénisse, j'ai choisi ce thème, c'est pour vous encourager, c'est le redémarrage de l'année. On a besoin d'entendre ces belles vérités pour vivre à la gloire de Dieu en ayant les regards sur notre Sauveur et Seigneur. Amen.